Et on retrouve tout de suite Kabbalat Shabbat, une émission qui vous est présentée par Bernard Aboif.
Bonsoir à tous, on se retrouve comme chaque vendredi soir pour Kabbalat Shabbat, une grande émission de Torah et de pensée juive. Et nous sommes en ligne avec Rav Eli Lemel. Bonsoir Rav Eli Lemel, Shabbat Shalom.
Bonsoir et Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom. Et on commence à se dire bonne fête puisque Pourim arrive à grands pas. Et aussi Shavuot Tov pour ceux qui nous font l'amitié de nous écouter le samedi soir. On peut encore se le permettre là. Une ou deux fois, je crois, et après, l'émission passera uniquement le vendredi. Rav Eli Lemel, on avance dans notre lecture de la paracha, ce passage que nous lisons dans nos communautés chaque vendredi. On arrive donc à Vaïkra, et la toute première phrase de Vaïkra dit « Lorsqu'un homme amènera un sacrifice », et vous voulez vous arrêter deux minutes sur l'expression qui a été utilisée pour qualifier le mot « d'homme », et en fait, il est écrit « Adam ». Bien sûr qu'il n'y a pas de hasard dans la Torah, chaque mot est pensé, chaque lettre est pensée, et donc il y a forcément un enseignement pourquoi « Adam » à ce moment-là, et pas « Ish », et pas le mot « Kolechad », est-ce que je sais moi, « Chacun », pourquoi le mot « Adam » et qu'est-ce qu'on a voulu nous enseigner avec ce terme qui, par ailleurs, est assez peu utilisé dans la Torah Kula.
Exact. On a donc ici le début de Vaïkra dans lequel on va parler essentiellement de toutes les offrandes que l'on amène tout d'abord dans le Mishkan, dans le sanctuaire, et puis après, ça va être dans le Beth Amikdash au Temple de Jérusalem. Et le verset va nous dire « Adam qui akriv mikem korban Hashem », Adam, un individu, mais qu'on appelle Adam lorsqu'il apportera une offrande pour Hashem, et à ce moment-là, on décrit qu'est-ce qu'il doit amener, etc., etc., on rentre dans les détails. Rashi, évidemment, s'arrête sur l'utilisation d'Adam et au nom des maîtres du Talmud, nous dit « Pourquoi est-ce que la Torah nous dit ici Adam ?» Eh bien, pour faire un lien avec celui que l'on a appelé Adam. Qui on a appelé Adam ? Ben, c'est Adam Arishon, le premier humain. Très bien. Et donc, Rashi de nous dire oui, parce que lorsque Adam a amené une offrande, eh bien, tout lui appartenait. Il n'y avait personne d'autre en dehors de lui sur l'univers, sur cette planète. Donc, dès lors qu'il amenait une offrande, on était sûr que ce n'était pas le fruit d'un vol. Parce que puisque tout lui appartient, il ne peut pas y avoir de vol. Par contre, nous pourrions éventuellement amener une offrande à partir de quelque chose qui est volé. Et donc, c'est la raison pour laquelle la Torah nous dit « Adam » pour nous dire « attention ». De la même manière que « Adam » n'a pas amené d'offrande qui provenait du vol, parce que pour lui c'était une impossibilité, j'ai envie de dire technique, eh bien il en est de même pour nous, nous ne devons pas amener d'offrande au temple, dans le sanctuaire, qui proviendrait du vol. Alors c'est très bien, c'est évident, mais c'est tellement évident qu'on se demande pourquoi on a besoin de le dire, et c'est quoi cette histoire? Au fond, on est en train de nous dire, tu sais, voilà, la personne veut amener une offrande, ou doit amener une offrande, parce qu'il y en a plusieurs, et on précise et on dit « Ben non, attention, surtout pas quelque chose qui a été volé. Mais j'espère bien, il ne manquerait plus que ça. Et plus que cela, je suis au temple, je suis dans le sanctuaire, donc j'ai conscience de ce que je suis en train de faire, on est face à Dieu, de manière plus particulière à ces endroits-là. Donc comment peut-on imaginer à un moment pouvoir amener une offrande, je t'offre, mais je l'ai volée ?» Au fond, ce n'est peut-être pas si banal que cela, et pour mieux comprendre cette problématique, eh bien, on va ouvrir, si vous le voulez bien, à une autre loi qui concerne les korbanot, les offrandes que l'on amenait au temple à Jérusalem. En effet, on le dit d'ailleurs tous les jours dans un texte qui s'appelle Ezou Mekoman, Shel Zohim, quels sont les lieux dans lesquels on amenait les différentes offrandes. Et vous savez qu'au temple, eh bien, suivant le type d'offrande que l'on amenait, on allait par la suite les consommer dans une partie du temple, dans une autre partie du temple. Certains ne pouvaient pas consommer si ce n'est dans un endroit très précis. Et pas que cela, la consommation des offrandes pouvait se faire soit juste pour 24 heures, soit pour 36 heures. Chacune avait des lois très particulières. Et la Torah nous dit, attention, si quelqu'un amène son offrande, donc il est en train de l'amener, d'accord, il est au Beth Amikdash, il est au temple, il est face au Kohen, au prêtre, il l'amène et on va imaginer que cette offrande, eh bien, sa caractéristique, c'est qu'on ne peut pas la manger en, dans tel et tel endroit, mais si ce n'est dans tel et tel autre endroit. D'accord ? Très bien, il n'y a pas de problème, on la mangera ici et pas là. Et que la personne qui l'amène, eh bien, au moment juste où elle est en train d'amener cette offrande, a juste cette pensée suivante, non, ben, peut-être que moi je la mangerai ici et puis aussi là. Même si concrètement après, elle la mange là où elle devait la manger, on considère que ce qu'elle a amené est pas saoul, n'a aucune valeur, et plus que cela, il y a une sanction vis-à-vis de cette personne. Et la question se pose à nouveau, mais tu es au temple, tu es en train d'amener un korban, une offrande, et tu dis, ok, mais néanmoins, je décide que je ferai quand même un petit peu comme je veux. Et la Torah éventualise cela. La Torah, en effet, ici, est en train de nous ouvrir à une idée qui va être très intéressante, c'est que l'être humain, même face à Dieu, a besoin de se sentir libre. C'est-à-dire que l'idée de la soumission pleine et entière vis-à-vis du Créateur est une des choses les plus complexes qu'il soit. On l'accepte, on sait qu'il est présent, on veut faire ce qu'il nous demande, mais à un moment, je veux décider, moi, comment je vais faire les choses. Alors, je vais les faire comme il me le demande à 90%, mais sur 10%, ben non, je décide. Il ne s'agit pas ici d'une personne qui veut tout faire, mais qui a une difficulté à tout faire, parce que ben, dans la vie, ce n'est pas toujours si simple de faire tout ce que Dieu attend de nous, pas du tout. Il est au temple et il n'y a pas de problème. De la même manière, voler, ce n'est pas nécessairement qu'il est parti dans le troupeau de l'autre pour lui voler un animal. Il va être dans un monde dans lequel on fait des affaires et c'est un peu borderline, mais lui, il dit non, mais c'est quelque chose que je vais utiliser par la suite pour le temple. Un petit peu comme la personne qui va dire, je sais que j'escroque, mais une partie de mes bénéfices iront dans une yeshiva, dans un institut d'éthique, dans une synagogue, que sais-je. Et la Torah nous dit qu'en effet, ainsi peut fonctionner l'humain. C'est ce que Rav Chaim Shmulevitz appelle, un des grands maîtres appelle, Haor va rechercher Ba'adam, la notion de lumière et d'obscurité qui peut se retrouver chez le même individu. Avec ici un élément plus particulier, c'est qu'on a au fond tous cette difficulté de se sentir pleinement soumis à la volonté d'Hachem. Et c'est là où je veux faire une distinction qui est fondamentale. Il y a celui qui voudrait tout faire comme il faut, mais qui a des difficultés. Pourquoi ? Il n'a pas grandi là-dedans. Parfois, c'est techniquement difficile. Parfois, il y a un environnement qui l'empêche. Mais dans l'absolu, il voudrait faire les choses comme il faut. Celui-là, au fond, est dans un univers de progression, de mouvement. Et les éléments qui l'empêchent d'être totalement cohérent, c'est eh bien, ce que j'appellerais nos problématiques humaines. Le fait qu'entre nos désirs et le fait qu'on puisse mettre tout en place, parfois, il y a de réelles difficultés. Par contre, il y a une autre catégorie. Il y a celui qui a décidé qu'il met volontairement de côté une partie de la règle, même si concrètement il va l'appliquer, puisque dans l'histoire de celui qui a pensé manger le corban à l'extérieur, en fin de compte, il va le manger là où il faut, mais il a voulu à ce moment-là dire « non mais je fais quand même ce que je veux ». Vous allez dire « bon, c'est quand même curieux, mais on comprend que ça puisse exister, mais c'est quand même surprenant ». En vérité, ça existe. Ça existe, j'ai envie de dire, presque chaque semaine dans une synagogue. Je vais donner un exemple très simple. La halakha, la loi juive, nous dit qu'on ne peut pas parler pendant la lecture de la Torah. On ne peut pas parler pendant la répétition de l'officiant. On ne peut pas parler quand on dit le kaddish. On ne peut pas parler du tout normalement dans la synagogue, mais il y a certaines prières, il y a certaines parties dans lesquelles on ne parle pas. Et vous avez des personnes qui sont venues, et c'est génial, qui ont mis leur talit, et c'est superbe, qui vont prier, et c'est exceptionnel, mais qui vont dire non, ça, non. C'est-à-dire, je décide que je vais suivre la règle, mais à un moment, eh bien, je mets de côté volontairement, comme ça, un élément de cette règle, parce que, ben pourquoi ? Parce que je ne veux pas me sentir complètement soumis. Et on voit que c'est quelque chose qui peut parfaitement correspondre à nos réalités au quotidien. Je ne parle pas de celui qui sait qu'on ne peut parler, mais à un moment, il n'en peut plus, il faut qu'il parle à son voisin, il faut qu'il lui parle. Alors, ok, il craque, il ne gère pas. C'est des choses qui arrivent. Mais je parle beaucoup plus de tous ceux qui, à un moment, décident sciemment qu'une partie de la loi ne les concerne pas. Non pas parce que c'est nécessairement complexe, mais parce que c'est une manière de garder une illusion de liberté face à la volonté divine. Alors, intéressant de voir que, justement, ce premier passou qui nous parle de l'univers des Corbanotes, mettre en exergue cette problématique, et donc nous dit attention qu'on soit bien clair, pas de vol. Parce que tu pourrais à un moment décider que, oui, je vais amener le Corban et je vais faire ce que je veux. Et intéressant de voir que si cette notion-là, on en parle particulièrement à propos du Corban, parce que le Corban, au fond, qui est cette offrande, en hébreu vient de la racine le karev. Le karev, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement rapprocher. Si nous voulons construire un véritable lien avec le Créateur de l'univers, eh bien, ça commence d'abord par cette idée que je suis prêt à me soumettre pleinement et totalement à sa volonté. Est-ce que j'y arriverai concrètement? Est-ce que ça sera quelque chose que je mettrai en place de manière quotidienne en permanence? Je ne sais pas, parce que la vie n'est pas toujours si simple, parce que si je n'ai pas été habitué depuis mon jeune âge, alors ce qui est du domaine de l'évidence pour les autres ne le sera pas pour moi, parce que nous avons toutes et tous ce qu'on appelle un yetzer hara, une tendance à vouloir à un moment suivre nos instincts et nos désirs, et parfois être dans la transgression. Mais c'est ça l'enjeu, au fond. C'est peut-être de se dire où je crée le lien de rapprochement. Vous le voyez d'ailleurs, même dans le monde des relations humaines, j'ai envie pleinement d'être à l'écoute de ce que tu attends de moi. Mais est-ce que je vais y arriver? Ça sera plus difficile. Et puis parfois, non. J'ai décidé que ça oui et ça non. Pourquoi? Pour bien te montrer que je n'ai pas envie de me sentir soumis. Alors que le terme de soumission est souvent compris de manière extrêmement péjorative. Alors qu'ici, il n'est que l'expression de la confiance et de l'amour que l'on a envers le Créateur de l'univers et par extension, évidemment, vis-à-vis de l'autre. Voilà un petit peu, en tout cas, ce que peut éveiller ce commentaire de Rashi par rapport à ce premier verset. À nous de savoir à quelle catégorie nous avons envie d'appartenir. C'est un véritable travail intérieur, mais qui vaut vraiment la peine d'être mis en place.
Rabbi Lillemel, franchement, c'est énorme ce que vous venez d'ouvrir. Énorme. Parce que ça pose aussi tout le problème de « je ne peux pas tout faire ». Alors évidemment, avec l'idée de « oui, mais on est des hommes, hein, on aboutit à tout ». Regardez, Poutine, c'est un homme, hein. Bah voilà, on peut faire n'importe quoi avec le... Mais vous, on est des hommes, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais d'un autre côté, soyons très honnêtes, on ne peut pas tout faire. Alors, personne ne peut tout faire.
Dans certaines traditions d'Extrême-Orient, on dit cette chose, lorsque quelqu'un dit « je ne peux pas », qu'il remplace le mot « peut » par le mot « veut ». Et parfois, ça sonnera beaucoup plus juste.
Ça, c'est vrai. Par exemple, effectivement, on ne dit pas « je n'ai pas le temps d'aller chercher mon fils à l'école », dit « aller chercher mon fils à l'école n'est pas une priorité pour moi ». Et tu verras que les choses vont être beaucoup plus claires pour toi.
Et beaucoup plus juste. Et mais c'est passionnant en même temps, parce que ça nous permet après de nous interroger, mais au fond, pourquoi je ne veux pas? Et ça ne peut être qu'une ouverture vers une découverte de ce qui se joue en nous par rapport à certaines choses.
Bon, je ne peux pas ouvrir un débat avec vous. D'abord, je n'ai pas votre érudition, et puis on va entendre les autres intervenants. Mais par exemple, normalement, je devrais étudier la Torah et travailler pour me permettre d'étudier. Je sais très bien que ça ne se passe pas comme ça. Je travaille, et dans mon temps de... Mais je ne veux pas ouvrir de débat. Par contre, pas parce que ça ne m'intéresse pas, ça me passionne. Et comme ça me passionne, j'ai peur de laisser courir... l'heure de notre rendez-vous que nous avons chaque semaine avec vous tous le vendredi après-midi. Cependant, je me permets, sous votre contrôle, de faire quelque chose qui m'a frappé à l'esprit immédiatement dès le début de votre rachat, de votre intervention. Je sais qu'il y a des gens qui disent « je ne veux pas savoir d'où vient l'argent quand ça vient pour mes mosdot ». Et ça m'a frappé tout de suite. J'ai dit « ah, non, tu prends pas tout l'argent pour tes mosdot ». Mais si vous voulez, même je garde ça pour ma responsabilité, je suis pas grave, mais ça m'a frappé tout de suite. C'est ceux qui disent ah, moi ça m'intéresse pas d'où vient le don qu'on m'a fait, d'où vient le... Si, ça t'intéresse, voilà.
Que ça doit m'intéresser, c'est une obligation.
Ah voilà, alors, bah, très bien, excusez-moi. Baruch Hashem, je dis vous voulez intervenir parce que j'ai dit tant pis, je le prends pour moi.
On ne cachérise jamais l'argent. Et puis on pourrait même à un moment se retrouver dans quelque chose qui s'appelle Messaïa Lidvar Avera. C'est-à-dire qu'on aide ceux qui, malheureusement, dans ce domaine en tout cas, n'ont pas encore fini de faire le travail qu'on doit faire, en leur disant « vous voyez, tout va bien, la preuve c'est que ça sert à quelque chose de positif ». Ce sont des épreuves qui ne sont pas simples. Lorsque vous êtes face à des énormes besoins, et que vous deviez être capable de vous interroger sur l'origine des fonds. Mais c'est peut-être ça qu'on attend de nous, d'être capable de nous confronter à ce genre de situation et d'avoir la bonne réponse.
Ravelli Lemel, je vous remercie à tous les points de vue. Et voilà, ça fait... C'est très réconfortant de vous entendre parler de cette manière, avec cette probité. Merci, Ravelli Lemel, et Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom.
On se retrouve dans un instant pour la suite de Kabbalat Shabbat. Et nous sommes en ligne à Jérusalem avec Rav Mordechai Bitton. Bonsoir Rav Mordechai.
Bonsoir, Shabbat Shalom et Shavua Tov pour ceux qui nous écouteront, Motzei Shabbat.
Voilà, et avant et aussi donc Shabbat Shalom quand même, bien pensé, bien senti, bien dit, avec un Shabbat qui est important, Shabbat Zachor, qui nous parle aussi de Moshe Rabbeinu et de sa modestie. C'est quoi la modestie de Moshe Rabbeinu? Parce que, d'après ce que j'ai compris, quand on est un grand monsieur, on ne dit pas non plus « Oh non, je ne suis rien ». C'est pas ça la modestie telle que nous l'a décrit la Torah, et surtout lorsqu'elle nous l'a décrit concernant Moshe.
Alors, c'est très surprenant parce qu'effectivement, le Sefer Vaïkra, le livre de Vaïkra du Lévitique, démarre donc sur l'appel de Hachem qui appelle Moshe Rabbeinu. Vaïkra Hachem. Hachem, il appelle Moshe Rabbeinu, et à partir de là, Hachem va énoncer donc les lois des sacrifices. Le mot Vaïkra s'écrit avec un Aleph à la fin, mais le Aleph qui apparaît est écrit en petit. Pourquoi ? J'explique, parce que Moshe Rabbeinu ne voulait pas rentrer dans le Mishkan, dans le tabernacle, tant qu'il n'y avait pas été convié, appelé par Akadosh Baruch Hu, par Dieu. Et c'est là une marque de modestie, une marque d'humilité de la part de Moshe Rabbeinu. Alors il y a un midrash absolument extraordinaire sur Vaïkra, qui dit que normalement ce Aleph aurait dû être écrit dans sa taille normale. Et du fait que, à la demande de Moshe Rabbeinu et de Moïse, donc il a été écrit de manière plus restreinte, il restait un peu d'encre. Alors, Midrash dit que cette encre-là, ce surplus d'encre, Hachem l'a pris, il l'a mis sur le visage de Moshe Rabbeinu, et le visage de Moshe Rabbeinu s'est mis à rayonner. Extraordinaire. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'il y a d'abord, dans un premier temps, dans la Torah, une dualité entre deux personnages, entre Moshe Rabbeinu et Balak. Balak, il est écrit « Vayaker », est écrit que Hachem l'a appelé, mais sans Aleph. Vayaker, et le mot Vayaker, il l'appelle, il fait aussi appel au de Keri, c'est-à-dire de semences lâchées en vin, d'impureté, également de la chaune micré, c'est-à-dire de la chaune, un langage qui fait appel au hasard, qui fait appel à quelque chose d'aléatoire, quelque chose qui peut pas être fixe. Autrement dit, le dialogue entre Hachem, Dieu, et Balak, c'est un dialogue, en quelque sorte, qui est un dialogue, un faux dialogue. En fait, Hachem n'a pas envie de parler à Balak, parce que Balak, c'est un homme qui a un commerce charnel avec son ânesse, c'est un homme orgueilleux, c'est un homme qui est rempli de lui-même. Quand Hachem lui dit « ne va pas maudire les Bnei Israël », eh bien, Balak se tourne vers la délégation qui lui a été envoyée et qui dit « écoutez, je ne peux pas partir avec vous, il faut m'envoyer des sous-entendus, des ministres plus respectables que vous ». Donc on a affaire ici à l'archétype du courtisan, du politique, du type qui vend ses services, du mercenaire politique, rempli d'orgueil, rempli de suffisance, rempli de passion débridée, animale, mais qui parle à Dieu. Et d'un autre côté, on a Moshe Rabbeinu, Moshe qui, lui, est celui sur lequel la Torah va témoigner qu'il est anav, qu'il est modeste, et qui, lui, ne veut pas rentrer dans le Mishkan, qui, lui, ne voulait même pas aller délivrer les Israël, qui, lui, en quelque sorte, se serait bien passé de ce dialogue avec Hachem, pour qu'en quelque sorte, ce soit Hachem lui-même qui joue son rôle sur l'histoire, pas par son intermédiaire, mais qu'Hachem délivre lui-même les Bnei Israël, ce qui aurait permis une délivrance complète des Bnei Israël. Moshe qui est capable de dire à Hachem, efface-moi de ton livre si tu n'as plus besoin de Am Israël. Donc, il y a ici deux personnages que la Torah va opposer. Même à la fin, d'ailleurs, on nous dit « Lokam be'Israël ke Moshe Od ». Plus personne ne s'est levé comme Moshe Rabbeinu parmi les prophètes d'Israël. Il n'y a pas eu de prophète de l'envergure et de l'ampleur de Moshe Rabbeinu. Mais par contre, dans les nations du monde, il y en a oui, un, c'était Bilam. Bilam, oui, celui-là il, parmi les nations, c'est quelqu'un qui a eu un dialogue avec Dieu. Mais à chaque fois, la Torah les oppose. Parce que d'un côté, il y a un homme qui est complètement en connexion avec Hachem et qui finalement, dans son cœur, se réjouirait très bien que ce soit son frère Aaron qui dirige le peuple juif. Et de l'autre côté, il y a un homme qui veut se mettre en avant, qui veut tout diriger, qui va même proposer à Hachem de rayer de la carte le peuple juif et de nouer une alliance avec les 70 nations. Il va dire à Hachem, pourquoi tu as comme porte-drapeau un peuple ? Prends 70 peuples, c'est beaucoup mieux pour toi. Simplement, tu nous laisses faire ce qu'on veut. C'est-à-dire un monde où on parle à Dieu, mais sans Dieu. Tandis que le monde de Moshe Rabbeinu, c'est un monde avec Dieu, mais sans Moshe Rabbeinu, en quelque sorte. C'est un Moshe Rabbeinu désire s'effacer. Mais c'est un monde où Dieu est présent. Et ça, c'est la dualité qui oppose ces deux personnages, et elle se retrouve ici, dans Vayikra. Alors, c'est intéressant, parce que on lit la parasha de Vayikra cette année, en même temps qu'on va lire parasha de Zachor. C'est la parasha qui nous enjoint de nous souvenir de ce que nous a fait Amalek, le peuple de la dérision. Amalek, c'est le peuple qui tourne tout en dérision. Les peuples sont terrorisés par ce qui est arrivé à l'Égypte, et ils comprennent la puissance du Dieu d'Israël. Ils comprennent qu'il ne faut pas se mesurer ni au peuple juif, ni à Israël. Mais finalement, Amalek va venir et va attaquer, va, comment on dit, refroidir la piscine. C'est-à-dire, d'une certaine manière, montrer qu'Am Israël peut être attaqué, qu'il peut être fragile, et que finalement, leur Dieu n'est peut-être pas si souvent que cela avec eux. Alors, ce peuple-là, c'est le summum de la dérision. C'est le summum de la gahava, c'est le summum de l'orgueil. C'est le peuple qui peut dire... Il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas d'ordre divin, il n'y a pas d'ordre vertical, il n'y a que la matière, il n'y a que les hommes qui sont sur la matière, il n'y a que le déterminisme naturel, et donc tourner en dérision toutes les valeurs spirituelles. Et là aussi c'est intéressant parce qu'il y a une connexion entre ces deux parachas. D'un côté vous avez le Beth Amikdash, qui est introduit par un appel à Moshe Rabbeinu, et donc qui est un appel dans lequel on parle de cet homme qui est modeste et qui recherche le contact avec Hachem, mais qui le recherche avec modestie, un homme qui a le sens des valeurs, et d'un autre côté un peuple qui lui venir à toute forme de valeur. Un peuple qui veut porter le drapeau de la sainteté, le drapeau de la relation avec Hachem, le drapeau de la présence d'Hachem dans ce monde, et un peuple de l'autre côté qui dit non, il n'y a pas de Dieu dans ce monde, il n'y a pas de spiritualité, ce monde-là c'est un monde entièrement matériel. Et cette dualité-là, elle se rencontre notamment autour du Beth Amikdash. C'est intéressant, et je conclurai avec ça. Aman, donc le héros négatif de l'histoire de Pourim, celui qui voulait nous détruire, le Midrash nous raconte qu'au début de la Megillah, il avait ses fils qui étaient installés à Jérusalem et qui surveillaient les travaux de reconstruction du Beth Amikdash. Ils envoyaient systématiquement des lettres à l'empereur pour dire « Attention, les Juifs reconstruisent le Beth Amikdash et ils veulent se rebeller contre toi. » Pourquoi les fils d'Aman étaient intéressés que le temple ne soit pas reconstruit ? Pourquoi Achashverosh, Assuérus, dans le festin qu'il organise, il va se revêtir des vêtements du Kohen Gadol ? Parce qu'il y a un enjeu autour du Beth Amikdash. En fait, le temple, le Beth Amikdash, c'est le summum de ce qu'est la civilisation juive. C'est-à-dire cette espèce d'équilibre, de recherche d'équilibre entre le spirituel et le matériel. Cette affirmation que dans le monde, il y a des valeurs. Il y a une hiérarchie des valeurs. Et donc les fils d'Aman, qui sont les descendants d'Amalek, les descendants d'un peuple qui lui nie toute forme de valeur, et donc veulent situer en quelque sorte l'homme avec sa toute-puissance au-dessus de tout, avec sa barbarie, sa cruauté, sa folie, eh bien ces fils-là sont là en train d'essayer d'empêcher que le Beth Amikdash soit reconstruit. Et dans cette paracha, on parle de Vayikra, où Moshe Rabbeinu est précisément appelé, au nom de sa modestie, au nom de son humilité, à rentrer dans le Beth Amikdash. Et là, ici, une confrontation de valeurs qui est la confrontation majeure entre ce que j'appellerais l'idéologie juive, l'idéologie de la Torah, et l'idéologie d'Amalek. Alors voilà, on va se souhaiter à toutes et à tous de passer un très bon Shabbat, de bien méditer sur ces parachas, cette paracha de Vayikra qui est très riche. Toujours un petit peu ardu, parce qu'on parle des lois, des sacrifices. Donc, en général, les gens pensent que c'est ardu, pas du tout. Ce sont des lois que nous appliquerons bientôt, puisque nous prions trois fois par jour pour le Mashiach et la reconstruction du Temple. Et ce sont des lois qui sont très pertinentes, parce qu'elles nous rappellent, finalement, Korban, les sacrifices, Minashon Karov, s'approcher, elles nous rappellent comment s'approcher de Dieu. Et notamment par cette notion d'humilité. Le premier pas dans le rapprochement avec l'être divin, c'est l'humilité. Voilà ce qu'on peut dire. Je vous souhaite à toutes et à tous Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom, Rav Mordechai. Et je rappellerai sous votre contrôle que c'est une mitzvah importante. C'est vraiment dans notre tradition d'aller l'écouter, cette paracha, d'aller Shabbat matin à la Sinaï. Il y a quelques moments où on dit, cette fois-ci encore plus que les autres, il faut vraiment aller écouter, par exemple, les 10 commandements. Ouais. Donc, Parashat Yitro. Et là, cette fois-ci, c'est Zachor.
C'est
mais je dis
Torah.
Ça sous votre
c'est,
contrôle.
C'est une ordonnance de la Torah d'aller écouter la lecture de cette Parashat ce Shabbat, donc de manière à accomplir la mitzvah, à la fois de se souvenir de ce que nous a fait Amalek, et d'une certaine manière participer à son effacement, par le fait qu'on se souvient et qu'on prie pour que, bientôt, son influence soit totalement effacée de l'humanité.
Rav Mordechai Biton à Jérusalem, je vous remercie. Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom.
On se retrouve dans un instant pour la suite de Kabbalat Shabbat. Et nous sommes en lien avec Maria Chadré. Bonsoir Maria Chadré. Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom.
Maria Chadré, on va parler avec vous de Vaïkra, bien sûr. Mais Vaïkra, ça veut dire et il a appelé. Mm-hmm. Mais selon vous, ça fait écho à une autre personne qui se pose la question de pourquoi on l'appelle, pourquoi on l'appelle pas. En fait, ça fait écho à Esther qui dit mais voilà, ça fait 30 jours qu'il ne m'a pas appelé le roi. Alors pourquoi est-ce que vous arrivez, pourquoi est-ce que d'après les Chachamim que vous avez lus, on peut faire un lien entre les deux? Donc on appelle Moshe dans la Torah, et plus ou moins au même moment, parce que les parachutes vont avec les fêtes, on a Esther qui dit à Mordechai, mais le roi ne m'a pas appelé.
C'est ça. Alors bah écoutez, c'est juste à ma lecture de la paracha et à ma relecture de la Megillah, que ça m'a émue. Si vous voulez, c'est pas la lecture d'un texte particulier ou quoi, mais je me suis dit, mais c'est incroyable, on est Vaïkra, on est Parashat Zachor, on est juste avant Pourim, et le troisième livre de la Torah commence par ce mot-là, Vaïkra El Moshe. Il a appelé Moshe, qui est, comme on le sait, une introduction superflue apparemment, puisque la suite du texte, ça va être Vayedaber Hachem, et là, Hachem lui a parlé, donc on aurait pu directement commencer par donc Dieu s'adressa à Moshe comme partout ailleurs. Et non, Rashi sur place dit non, c'est pour savoir que être appelé, c'est un signe d'affection. Quand on entend son nom, quand Dieu dit Moshe, il dit Moïse, Moshe. Eh bien, il faut savoir qu'il y a un lien de proximité. Or, tout le livre de Vaïkra, c'est le livre des Korbanot. Les Korbanot, c'est la proximité, c'est Karov. C'est donc, j'appelle ça le livre de la proximité. Et ce livre de la proximité est introduit par un appel personnel avec le prénom. Et en relisant cette introduction au livre de la proximité, qui, comme on le sait, le livre avec lequel on commence à enseigner la Torah aux enfants, parce que la chose la plus importante, c'est de leur dire qu'ils peuvent être proches d'Hachem, qu'ils sont proches d'Hachem. Eh bien, ça m'a fait écho à cette phrase, je trouve, incroyable, de la reine Esther, qui dit à Mordechai, en utilisant le même verbe, Velo nikreti lavo el meler ze shloshim yom. Voilà 30 jours que je n'ai pas été appelée par le roi. Alors, rappelons-nous du contexte. Le plan génocidaire de Haman est en route. Et Mordechai se tourne vers Esther et lui dit « Écoute, Esther, tous les yeux sont rivés vers toi. Va voir le roi. » Et elle est convaincue de ne pouvoir rien faire bouger. Et pour expliquer son point de vue à Mordechai, elle dit cette phrase terrible « Voilà 30 jours que le roi ne m'a pas appelée. Je ne suis pas appelée par le roi. Le roi veut-il de moi ?» Et alors on sait très bien que là, les Chachamim nous disent que le texte de la Megillah, qui est connu pour cacher le nom de Dieu, le nom de Dieu n'apparaît pas dans ce texte qui est pourtant un texte prophétique, qui rentre dans le canon biblique. Dieu n'y apparaît pas parce qu'en effet, les miracles n'ont pas été des miracles qui se sont manifestés à nous comme les miracles antérieurs. Et donc, c'est la période pourrime à partir de laquelle Dieu va se cacher et à nous de le découvrir. Donc, le nom de Dieu ne se figure pas dans la Megillah, mais disent les sages, attention, quand on voit écrit le mot « le roi Achashverosh », il s'agit du roi Achashverosh, mais quand il y a écrit juste « le roi Ameler », alors on peut lire comme on veut. Soit on parle du roi Achashverosh, soit on parle du roi des rois. Or là, la reine Esther va dire « lo nikreti lavo el Ameler ». Je n'ai pas été appelée par le roi. C'est-à-dire qu'en écho à cette phrase d'Esther, je crois qu'il y a toutes nos phrases à nous qui observons notre existence, qu'elle soit individuelle ou collective, et qui nous demandons mais comment j'ai pu en arriver là? Est-ce que le roi veut-il de moi? Est-ce que j'ai une chance en prenant mon livre de prière, en faisant une mitzvah, en me tournant juste vers le ciel et en parlant comme ça, à voix haute, dans ma langue maternelle? Est-ce que le roi veut de moi? Parce qu'il se cache tellement, il est tellement pas visible, que je me demande s'il veut de moi. D'où ça vient? D'où ça vient cette sensation d'éloignement? Parce que la réponse, c'est que oui, le roi va vouloir d'elle. Le roi Achashverosh va lui tendre son sceptre et en réalité, à nous d'imaginer le roi des rois qui nous tend son sceptre et qui nous dit « Et comment que je veux de toi ?» Oui, le monde, c'est un monde dans lequel je me tais désormais depuis la destruction du premier temple. Il n'y a plus de prophétie, il n'y a plus de manifestation évidente de Dieu. Mais il est en permanence, tout se met en place avec une précision chirurgicale et c'est à nous de faire l'effort. Alors, c'est à nous de faire l'effort et pour réussir à sentir que Dieu veut de nous, que nous sommes appelés, Vaïkra, qu'il nous appelle chacun personnellement, eh bien, le travail qu'il y aura à faire ce Shabbat, rappelons-nous, c'est d'effacer le souvenir d'Amalek. Alors ce Shabbat a un nom spécial, il s'appelle Shabbat Zachor, du nom du début du texte qu'on va lire, du Maftir, dans Kitetsé. Zachor est asher asalecha Amalek, souviens-toi de ce que t'as fait Amalek, baderech, en chemin. Alors Amalek, c'est cette force-là dans le monde qui nous attaque quand on est en chemin, quand on est en route, quand on a une destination réelle ou imaginaire dans notre tête, qu'on fait tout pour essayer d'y arriver, que nous sommes ayef veyagea, on est fatigué, on est à bout de force, parce que justement on n'a pas l'impression que nos efforts vont mener à quelque chose, et c'est là que Amalek va venir nous susurrer, nous dire, eh bien, le doute. Vous savez qu'Amalek, c'est les lettres, c'est la valeur numérique du mot safek, le doute. Il va nous faire douter, il va nous faire croire, eh bien, que nous n'avons pas d'ashgara, que Dieu ne nous prend pas en charge, qu'il n'y a que le destin, le hasard. Et en fait, Amalek est le premier athéiste, le premier athée au monde. C'est-à-dire que jusque-là, explique Rav Shapira, il y avait du polythéisme, il y avait le monothéisme d'Israël, mais personne n'avait osé jusque-là dire « il n'y a aucune force dans le monde ». Et c'est vraiment ce que Amalek essaye encore de nous faire croire, qu'on n'a pas, y a aucun espoir pour nous, qu'on n'arrivera pas à destination, qu'on est voué aux forces du monde. Et dit Rav Moshe Shapira, Amalek, c'est les lettres « me'oukal », ça veut dire « tordu ». Contrairement au mot « Israël », c'est les lettres « yachar »,« yachar el », tout droit, tout droit vers Dieu. C'est-à-dire qu'il y a ce principe-là qui va contorsionner la vérité, qui va rendre tordu quelque chose qui est pourtant évident et qui va réussir à nous mettre le doute. Et c'est parce qu'il y a ce doute-là, c'est parce qu'il y a cette fragilité en nous que finalement on arrive à des moments à dire « mais finalement le roi veut-il de moi ?» Est-ce que le roi va entendre ce que j'ai à dire? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui écoute, qui répond, qui gère mon existence dans ses moindres détails? Et la réponse de Pourim, la semaine prochaine, eh bien, évidemment, c'est que nous sommes tous des petits trainesters en devenir. Nous avons tous à l'intérieur de nous quelque chose d'héroïque. Nous l'ignorons, comme la reine Esther, et à nous de réussir, eh bien, en réussissant à circonscrire le mal d'Amalek dans quelque chose qui est extérieur à nous, eh bien, on va peut-être réussir, on espère, à favoriser l'émergence de nos forces intérieures, de notre proximité. Voilà, on ouvre le livre de Vaïkra, le livre de la proximité, à nous de comprendre que quel que soit, je dis bien, quel que soit notre niveau de pratique, quel que soit notre érudition dans les textes de la Torah, chaque Ben Israël, chaque Bat Israël a une place très 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 spéciale auprès des forces célestes d'Akadosh Baruch Hu et a un rôle unique à remplir dans le monde. Personne ne peut remplir ce rôle à notre place et la fête de Pourim est là pour nous remplir l'importance pour nous, qu'on se ressaisisse de cette importance personnelle de chaque personne parmi le clan d'Israël.
Maria Chach, je vais vous dire, je ne sais pas si de manière consciente ou inconsciente, je ne sais pas si vous vous rendez compte que vous avez peut-être touché les deux points les deux points majeurs par rapport à la foi. Par rapport à la foi, c'est « mais Dieu parle pas ». Qu'est-ce que tu sais ce qu'il veut? Qui t'a dit ce qu'il veut? Qu'est-ce que t'en sais? C'est vraiment un problème, c'est foi dans le sens émouna. Et après, oui, le doute. Mais Bernard, ça sert à rien, pourquoi tu fais ça? Et tu vois bien que ça marche pas. Tu vois bien que même si tu l'as, ouais, voilà, tu l'as fait et tu n'as aucun résultat, c'est peut-être, ou peut-être de manière inconsciente, c'est moi qui vous pose la question sur... c'est moi qui parle inconsciemment. Je parle de mes deux questions à moi principales avec foi. C'est peut-être ça, oui.
C'est Pourim qui répond à ces questions. Juste le fait de vivre Pourim, de faire Pourim, de lire cette Megillah, de donner les paquets, les Mishloach Manot, n'oublions pas Matanot Laevyonim, hein, bien sûr pour les pauvres aussi, comme c'est important. Et peut-être ben voilà, de vous dire, on se rappelle de cette phrase sur Pourim, toute personne qui tend la main, on a l'obligation de lui donner. Eh bien, les sages disent que Dieu aussi a cette obligation. Toute personne qui lui tend la main, il a l'obligation de lui donner. Alors allons-y, n'hésitons pas, faisons des prières. Et on va demander. Et voilà, on est au milieu d'un chapitre. Quand on est au milieu d'un chapitre, on ne sait pas, même la guerre en Ukraine, on ne sait pas quoi, comment. Et pourtant, vous savez, n'oublions pas que celui qui lit la Megillah va dérouler tout le parchemin, contrairement au livre de Torah qui est enroulé, on ne déroule que la partie qu'on lit. Il va dérouler tout le parchemin. Pourquoi ? Pour qu'on comprenne qu'il y a un début et une fin à toute situation. Et que quand on est au milieu, dans un chapitre de notre vie, on n'a pas encore toutes les réponses.
On n'a pas la réponse. Maria Chadré, merci encore une fois pour ce très beau moment. Merci à vous et Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom. Shalom leiboy na boy, Hashem lo yishmarhi. Shav shokat shoy mai, Hashem lo yine bayis. Shalom leiboy na boy, Hashem lo yishmarhi. Shav shokat shoy mai.